Chapitre 15. Chagrin, haine. Il semble que ce soit vers 1842 que la vie en Chopin commence à baisser de ton. Même la volonté de guérir, pour qui l'eût cultivé, maintenant que l'amour n'est plus en avant mais en arrière de lui. Les amants qui sentent tarir en eux le pouvoir de souffrir s'abandonnent tout de suite aux doux appels de la mort. S'ils disparaissent, on les plaint d'avoir été faibles. S'ils survivent, on leur reproche d'être cyniques. Eux-mêmes ne se doutent pas qu'ils sont vidés de leur substance comme ces arbres creux, feuillus encore, mais dont un coup de vent aura raison. Chopin mourant se croyait éternel. Au printemps de 42, son ami d'enfance, Matuszynski, succomba à la tuberculose. Au mois de mai 44, son père s'éteignit à Varsovie. C'était la fin d'un juste. Il ferma les yeux en regardant les portraits et le buste de son fils bien-aimé et demanda qu'après sa mort, l'on ouvrît son corps parce qu'il craignait d'être enterré vivant. Ces deux coups furent terribles pour l'artiste. Pourtant, il écrivit au sien.
« J'ai déjà survécu à tant de gens plus jeunes et plus forts que moi qu'il me semble être éternel. Ne vous inquiétez jamais de moi. Dieu étend sur moi sa grâce. »
Devant la persistance de sa dépression, Georges eut la pensée d'inviter à Nohant la sœur aînée de Frédéric et son mari, le ménage Yetrchevitch. Il fallut les prévenir des grands changements qu'ils allaient découvrir dans la santé de leur frère. Georges leur écrivit.
« Vous allez trouver mon cher enfant bien chétif et bien changé depuis le temps que vous ne l'avez vu, mais ne soyez pourtant pas trop effrayés de sa santé. » Elle se maintient sans altération générale depuis plus de 6 ans que je le vois tous les jours. Une quinte de toux assez forte tous les matins, 2 ou 3 crises plus considérables, et durant chacune 2 ou 3 jours seulement tous les hivers. Quelques souffrances névralgiques de temps à autre, voilà son état régulier. Du reste, sa poitrine est saine et son organisation délicate n'offre aucune lésion. J'espère toujours qu'avec le temps, elle se fortifiera, mais je suis sûre du moins qu'elle durera autant qu'une autre, avec une vie réglée et des soins. Le bonheur de vous voir, quoique mêlé de profondes et douloureuses émotions qui le briseront peut-être un peu le premier jour, lui feront pourtant un grand bien, et j'en suis si heureuse pour lui que je bénis la résolution que vous avez prise. Il y a longtemps qu'il ne s'occupe que du bonheur de ceux qu'il aime, à la place de celui qu'il ne peut partager avec eux. Pour ma part, j'ai fait tout ce qui dépendait de moi pour lui adoucir cette cruelle absence, et, bien que je ne lui ai pas fait oublier, j'ai du moins la consolation de lui avoir donné et inspiré autant d'affection que possible après vous autres. »
Georges écrivit même à Madame Nicolas Chopin, pour lui assurer que désormais elle consacrerait à Frédéric sa vie et le regarderait comme son propre fils. Louise et son mari vinrent donc en 1844 passer à Nohant une partie de l'été, et la joie qu'en eut Chopin se transposa en un sentiment nouveau de gratitude pour son ami. L'amertume quitta un peu son âme, le rendit plus fort et plus courageux. La confiance même lui revint pour un temps. Le côté filial et familial de sa tendresse s'en trouva renforcé. Après leur départ, Frédéric s'accroche davantage à ses bien-aimés, à ses morceaux de lui-même. Il les revoit en songe. Il cherche leur place sur le canapé, conserve comme une relique une pantoufle brodée oubliée par sa sœur, se sert du crayon de son portefeuille, comme autrefois Marie Wotzinska se servait du sien. Il leur donne des nouvelles de l'automne, du jardin. Il entre dans les plus petits détails, jusqu'à parler du petit ours qui monte et descend sur le baromètre. Comme on voit bien tout ce qui manque à cet amant manqué. À la promenade, il suit les autres sur un âne, pour se fatiguer moins. Mais l'automne est froid, pluvieux, et Chopin passe plus de temps devant son piano que dehors. Puis il retourne à Paris et se réinstalle au square d'Orléans, tout au début de novembre. Georges se préoccupe sérieusement cette fois de
« son cher cadavre »,
le recommande aux amis, pendant qu'elle reste à la campagne. Cette époque est marquée de part et d'autre par une flambée de sollicitude affectueuse. Chopin ne veut pas qu'elle s'inquiète et continue de dissimuler les progrès de la maladie. À son insu, Georges s'informe de lui.
« Il ne faudrait pas qu'il sache. je ne puis me passer de ces préoccupations qui font le bonheur de ma vie. Décidément, je ne pourrais pas vivre sans mon petit souffreteux. »
Elle se rend compte que l'organisme de Chip est atteint de manière tout à fait grave. Il décline visiblement. Le mauvais hiver, les nerfs, l'irritation, la bronchite persistante en sont peut-être la cause. Toutefois, l'amour pouvait encore beaucoup. Mais l'amour s'est réfugié apparemment dans les seuls sentiments de famille.
« Qu'il n'ait jamais d'inquiétude sur votre compte à tous, » écrit Georges à Louise, « car son cœur est toujours avec vous, et à toute heure il se tourmente et s'élance vers sa chère famille. »
Pendant l'hiver de 45 et le printemps de 46, il souffre de la grippe. Cependant, il ne forme pas d'autres plans que les usuels et projette de passer l'été à Nohant. Avant de partir, il donne chez lui un petit dîner. De la musique, des fleurs, des boostifailles. Comme invité, le prince Czartoryski et sa femme. Celle-ci, pour le dire en passant, est la plus brillante et la plus authentique des élèves féminins de son maître. La princesse Sapieha, Delacroix, Louis Blanc, Pauline Viardot, enfin les vieux amis. Mais en arrivant à Nohant, tout lui paraît étranger, comme dans une maison désertée par la vie. Il change son piano de place, dispose sa table autrement, ses volumes de poésie, sa musique.
« J'ai toujours un pied chez vous, » écrit-il à Louise et à son mari. « L'autre dans la chambre à côté où travaille mon hôtesse est pas du tout chez moi en ce moment, mais bien, comme d'ordinaire, dans d'étranges espaces. Ce sont sans doute des espaces imaginaires, mais je n'en rougis pas. »
Son plaisir est de se faire chanter par Pauline Viardot des mélodies espagnoles qu'elle a notées elle-même.
« J'aime beaucoup ces chansons. Elle m'a promis de vous les chanter quand elle passerait à Varsovie. Cette musique vous unira à moi. Je l'ai toujours écoutée avec un grand enthousiasme. »
Mais il faut regarder en dessous de la surface, car dans les profondeurs de tous ces êtres qui vivent en commun, un drame se prépare. On peut dire qu'il couve depuis déjà plusieurs années, et ce n'est ni Georges ni Frédéric qui seront les auteurs responsables de son explosion, mais les enfants. Il y a d'abord Maurice, l'aîné, jeune homme de 22 ans, adoré par sa mère et très gâté par elle, élevé à la diable, peintre à ses heures, littérateur à d'autres, collectionneur de lépidoptères et de minéraux, qui promet au total de devenir un type assez complet de raté intelligent. Il n'est pas sans talent, a de l'allure, de la gaieté, mais un petit ton âpre et cassant. Depuis le voyant de Majorque, il avait eu le temps de s'habituer à Chopin, ayant vu pour ainsi dire chaque jour cet ami de sa mère. Mais s'il y eut d'abord entre eux une certaine sympathie, elle s'est vite relâchée et voici plusieurs années déjà qu'ils ne s'entendent pas. Sans doute ceci est-il fort explicable. Maurice aime par-dessus tout sa mère, et il voit bien que sa vie n'est pas facile, unie. Il surprend des disputes, il s'agace, des nervosités de l'homme prétendu grand, et qu'il voit à lui sous les traits d'un malade difficile, renfermé et quelquefois mauvais. Peut-être même souffre-t-il des sourires équivoques qui soulignent le passage des deux amants célèbres. Et puis son père, ce médiocre du devant, doit lâcher parfois de grosses pointes outrageantes quand son fils va le voir. Il est froissé aussi par le caractère de Chopin, ses manières de grand seigneur, l'œil souvent dédaigneux de ce pique-assiette compliqué et encombrant. Or, les enfants ne pardonnent jamais à l'étranger qui se permet une critique, et d'autant moins qu'elle est fondée. Chopin en fait une, assez vive, à propos de Maurice et d'Augustine. Cette Augustine était la nièce de Madame Sand, fille de sa cousine Adèle Brou, laquelle appartient à la lignée tout peuple de la famille, et n'était rien d'autre qu'une dame galante. Chopin n'aimait pas Augustine. Il prit le parti de Solange. Quant à Maurice, ennemi né de sa sœur, il fut à ce point pour Augustine qu'on le soupçonna d'être devenu son amant. Georges le nie avec force, avec autorité. Mais Chopin le croit volontiers, d'abord parce que son intuition le veut ainsi, ensuite parce que Solange cherche, par toutes sortes de moyens, à ancrer cette idée dans sa tête. Une bizarre fille, cette Solange. Au physique, le portrait de sa bisaïeule, Marie-Aurore de Saxe, c'est-à-dire blonde, fraîche, admirablement bien faite. En morale, d'un esprit froid, brillant et vif, passionnée, vaniteuse, très excitable, sournoise, peut-être fausse, en tout cas volontaire, vicieuse sans aucun doute, nullement équilibrée. On traite toujours de cœur dur cette névrosée qui aurait pu se développer de façon bien intéressante. On la brime, on l'aigrit, on la rend impitoyable. Pauline Viardot prétend qu'elle fait le mal par amour de l'art. C'est qu'elle est née ardente et malheureuse. Une nature comme celle-ci a besoin d'être aimée à fond, et ces duretés lui sont venues surtout par jalousie. Ce sont les offenses lentement enregistrées par son cœur qui l'ont faite solitaire et mauvaise. Sa mère elle-même disait
« Elle a 19 ans, elle est belle, elle a une intelligence remarquable, elle a été élevée avec amour dans des conditions de bonheur, de développement, de moralité, qui auraient dû en faire une sainte ou une héroïne. Mais ce siècle est maudit, et elle est l'enfant de ce siècle. Tout est passion chez elle, et passion glacée, ce qui est bien profond, bien inexplicable et bien effrayant. »
À qui la faute ? C'est dans les familles seulement qu'on trouve ces sortes de haines raffinées qui sont une des formes tristes de l'amour. Il y a longtemps que le mystère de cette âme attire Chopin. Et d'abord, Solange est coquette. Depuis sa puberté, elle essaye sur lui le pouvoir de son âge trouble, et ce nerveux n'y paraît pas insensible. Ne retrouve-t-il pas en elle les séductions et même cette grâce animale et libre que devait avoir Georges à 15 ans? Un amant aime, dans la fille de sa maîtresse, les bonheurs qu'il n'a pas eus et le souvenir rajeuni de ses souffrances. Solange est moins franche que sa mère, assez perverse même. Elle tâte de quelques jeux pas très innocents, par goût d'abord, et aussi pour apaiser cette rancune amoureuse qu'elle voue au sien. Il serait beau de venger son cœur méprisé en ôtant à celui de sa mère la tendresse de Chopin. Un autre attrait de celui-ci sur Solange, c'est son élégance, sa distinction, ses hautes relations mondaines. Car elle est snob, et il fait délicieux se réfugier dans le salon du grand ami tout peuplé de comtesses, quand celui de sa mère résonne des rires de Maurice et de ses camarades, ou des grandes pensées de Pierre Leroux. On y trouve même, en ces derniers temps, une horde de poètes artisans dont la romancière est entichée. C'est donc tout un drame obscur, journellement avorté mais journellement repris, semé de malentendus et compliqué de gêne. Car Sand, bien des fois, voudrait s'en expliquer avec son amant, l'obliger à intervenir. Mais il se dérobe, ou bien prend ouvertement le parti de Solange. Georges s'essaye en vain à briser sa fille. Elle se briserait plutôt elle-même contre les aspérités de ce caractère, en tant de choses si semblables au sien. De ces mésintelligences, c'est Chopin qui souffre le plus, puisque jamais il ne peut se délivrer par la parole, les vaines explications, puisque jamais il ne peut rien exprimer qu'en musique. Sa nervosité augmente, il se laisse agacer jusqu'aux larmes par des histoires de domestiques. Il ne conçoit pas qu'on puisse renvoyer un vieux serviteur, et précisément Madame Sand, cette bonne communiste, fait maison neuve à tour de bras. Il est fatigué, et quand il est fatigué, il n'est pas gai, cela déteint sur l'humeur de chacun. Il se sent vieux. Georges aussi se sent vieille. Elle a 42 ans. C'est un temps dur, un temps de crise que cette fin d'été de 1846. Le ciel lui-même est plein d'orages. Pourtant Chopin travaille. Il écrit aux chéris de Varsovie. Il leur raconte toutes les histoires dont il faut bourrer une lettre lorsqu'on veut masquer ses sentiments. La girafe du Jardin des Plantes est morte. Les Italiens ont fait à Paris leur réouverture. Monsieur Le Verrier a trouvé une nouvelle planète. Monsieur Faber de Londres, professeur de mathématiques, a construit un automate qui chante un air de Haydn et le God Save the Queen.
Je joue un peu. J'écris un peu aussi. De ma sonate avec violoncelle, je suis parfois content, parfois mécontent. Je la jette dans un coin, puis je la reprends. J'ai 3 mazurkas nouvelles, en si majeur, fa mineur et do dièse mineur, dédiées à la comtesse Sosnowska. Ce sont ses dernières œuvres, opus 63 et 65. Quand on les compose, il semble que ce soit bien. S'il en était autrement, on n'écrira jamais. Plus tard vient la réflexion, et on rejette ou on accepte. Le temps est le meilleur juge et la patience le meilleur maître. J'espère recevoir bientôt une lettre de vous. Cependant, je suis tranquille. Et je sais qu'avec votre nombreuse famille, il est difficile que chacun m'écrive un mot. Surtout qu'à nous, la plume ne suffit pas. Je ne sais pendant combien d'années nous devrions bavarder pour être au bout de notre latin, comme on dit ici. C'est pour cela que vous ne devez pas vous étonner de vous attrister quand vous n'aurez pas de lettre de moi, car il n'y a pas de cause réelle, pas plus que chez vous. Une certaine peine s'unit au plaisir de vous écrire. C'est la certitude qu'entre nous il n'y a pas de parole, à peine des faits. L'hiver ne s'annonce pas mauvais, et en me soignant quelque peu, il passera comme le précédent. Et grâce à Dieu, pas plus mal. Combien de personnes vont plus mal que moi? Il est vrai que beaucoup vont mieux, mais À celle-là, je ne pense pas.
A-t-on noté ce mot ?
Surtout qu'à nous, la plume ne suffit pas.
Voilà la sourdine exquise des plaintes de Chopin. À Georges, la plume suffit. Autour de Frédéric, à défaut d'être heureux, on est bruyant. On joue la comédie. On organise des tableaux vivants, des charades. La pantomime, pour laquelle tout le monde se passionne bientôt, est de l'invention de Chopin. C'est lui qui tient le piano et improvise pendant que les jeunes gens dansent des ballets comiques, aidés de quelques invités. Arago, Louis Blanc. Mais personne ne se doute qu'entre Georges et Frédéric, la rupture est consommée. Depuis longtemps, les désirs sont morts, et voici que la tendresse, l'affection, ne subsiste plus que d'un seul côté. En pleurant dans le bois sacré sur sa jeunesse achevée, Georges a donné ses dernières larmes. Désormais, elle ne sera plus que mère, impitoyablement mère, et seulement de ses deux enfants. Elle s'occupe maintenant de marier Solange. Deux ou trois prétendants se succèdent à Nohant coup sur coup. Victor de la Prade, puis un jeune homme Berrichon avec qui Solange flirte allègrement. Un beau jour enfin, entre Maurice et Chopin, une dispute éclate sur un propos futile. Une de ces disputes graves, irrémédiables. Ils se blessent avec acharnement. Un moment après, ils s'embrassent.
Mais le grain de sable est tombé dans le lac tranquille, et peu à peu, les cailloux y tombent, un à un.
Cela recommence bientôt. Maurice parle de quitter la partie et la maison. Sa mère se range de son côté, naturellement. Alors Chopin baisse la tête. C'est lui qui s'en ira. Personne ne dit mot pour le retenir. Il se mit en route dans les premiers jours de novembre. 7 ans et demi auparavant, il était arrivé à Nohant pour la première fois, le corps déjà bien délabré. Mais ce n'est rien quand l'âme est solide. Or, en ce jour d'arrière-automne, elle aussi avait croulé. On vit le malade, enveloppé de couverture, monter dans sa calèche. De sa main pâle et sèche, il fit un signe d'adieu. Personne n'en comprit le sens. Pas même lui. Il allait entrer dans la mort.